Christine de Rivoire, bonsoir. Frédéric Maget, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de revoir Christine de Rivoire, que j'ai eu déjà l'occasion d'interroger, ici ou dans la salle du dessus, dans la salle du dessus plutôt. Je suis très heureux de la revoir à Bordeaux. Je suis très heureux de la revoir à Bordeaux avec beaucoup de monde pour l'entendre. Beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui la connaissent, beaucoup de gens qui la retrouvent ou beaucoup de gens qui la découvrent. Et ceci à l'occasion de la parution de cet ouvrage qui s'appelle Flying Fox. J'ai toujours envie de dire Fly Tox, mais non, c'est autre chose, Fly Tox. Flying Fox, et avec un sous-titre et autres portraits. Donc nous allons parler de cet ouvrage, nous allons parler de ses portraits. Ce livre, il est signé de Christine de Rivoire, mais avec Frédéric Maget. Alors Frédéric Maget est là. Et est-ce que vous pouvez nous présenter Frédéric Maget ?
Oui, c'est pas difficile. Non, en gros, je suis obligée de vous dire que ça. J'ai jamais vu une collaboration qui s'est aussi bien passée que celle de ce jeune homme avec moi. Je suis difficile de caractère.
Oui. Et on m'a dit que oui.
Je crois. Même assez emmerdante. Allez, allons-y.
Oh non.
Si, on peut le dire, mais je n'ai pas envie de le dire.
Non, on ne le dit pas.
Et lui, c'est quelqu'un qui tout d'un coup m'a apaisée. Voilà.
Alors... Donc, il vous a aidé à rédiger Flying Fox. De quelle manière ça s'est passé, Frédéric Maget, vous pouvez nous l'expliquer.
En fait, il faut expliquer qu'au départ, le projet est né à Saint-Sauveur-en-Puisaye, village natal de Colette, puisque c'est un de mes domaines de spécialité et que Christine est sans doute un des écrivains français qui connaît le mieux l'œuvre de Colette. Et en discutant avec elle, je me suis dit, mais quel dommage que les gens ne puissent pas avoir le même plaisir qui était le mien de l'écouter, de l'entendre parler, évoquer les gens qu'elle avait connus, les événements de sa vie, et puis surtout ce regard unique qu'elle porte sur les gens et sur le monde qui se retrouve, je pense, dans le livre.
Vous parlez de Christine ou vous parlez de Colette?
Deux à la fois. Les deux, mon commandant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de points communs. J'en parlerai d'ailleurs demain à l'heure du 1. Et j'ai donc proposé à Christine une forme plutôt banale qui était la forme des entretiens. Donc on s'est vu pendant une année, le jeudi après-midi, et j'ai enregistré donc des heures d'entretien avec Christine sur vraiment tous les aspects de sa vie et de son œuvre. Et puis est venu le moment de la transcription de ces entretiens, comme on fait, je dirais, habituellement. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire qui a changé le visage du livre, c'est que Christine, en relisant une transcription même légèrement améliorée de ce qui est oral, finalement, l'écrivain en elle s'est révolté en disant « Non, ce n'est pas un livre qui me ressemble, je ne peux pas, le faire comme ça. » Et donc a commencé en fait autre chose, c'est-à-dire qu'on s'est servi de la matière de ces entretiens pour écrire un livre à part entière, puisque ce n'est pas un livre d'entretien, ce n'est pas non plus une autobiographie, ce ne sont pas des mémoires. C'est un livre, pour le coup, qui ressemble assez aux derniers ouvrages de Colette, c'est-à-dire à l'Étoile Vespère ou au Fanal Bleu, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire une sorte de promenade à travers la vie. Elle avait d'ailleurs donné cette image que je trouve assez juste. Elle me dit, moi, ce que je voudrais, c'est une petite promenade au cours de l'eau. On s'arrêterait de ci, de là, sans jamais être trop pesant. Et je crois que le livre, d'une certaine façon, ressemble assez à ça. Donc, notre travail a consisté, dans un premier temps, à réunir la matière et puis ensuite à lui donner forme. Et la forme, c'est celle de Christine. D'ailleurs, ça s'entend et ça se lit.
Oui, ça s'entend, ça se lit. Et d'ailleurs, le livre navigue entre deux registres, il me semble. C'est-à-dire un registre qui est encore l'écho de vos conversations, c'est-à-dire qui, à certains égards, est encore proche de la langue parlée, et avec le mouvement de la langue parlée, la rapidité, le caractère extrêmement aigu, ça. Et puis des textes qui sont des passages qui sont, qui m'ont semblé en tout cas plus écrits. Je pense à deux ou trois des passages, notamment celui sur Félix Arnaudin. Ça paraît être un texte très, très écrit, celui-là.
C'est entièrement moi, parce voilà. que lui n'aime pas du tout Félix Arnaudin. Oui, je vous trahis. Il est dans mon livre, c'est vraiment quelque chose dont il n'est pas du tout content. C'est Félix Arnaudin et moi j'en suis folle. C'est un grand, c'est un type. Si les gens qui aiment les Landes lisent tout ce qu'ils peuvent d'Arnaudin, c'est un petit conseil que je leur donne, parce que c'est magnifique.
Mais je ne veux pas... Alors vous savez pas que je ne savais pas ce que vous venez de dire, que c'est entièrement de vous, qu'il n'y est pour rien,
et
qu'il n'aime pas ce passage, ça je l'ignorais complètement. Je suis embêté de mettre tout de suite le doigt sur quelque chose qu'il n'aime pas. je trouve évidemment très réussi, mais peut-être c'est plus proche en effet de la langue écrite, plus proche de l'écriture que de la conversation.
C'est surtout, en fait, c'est le dernier chapitre qui a été écrit. C'est pas le dernier chapitre dans le texte, mais c'est le dernier chapitre qu'on a écrit ensemble. Ouais. Et Christine a, je pense, réécrit ce texte 15 fois. Vraiment, je dois avoir au moins 10 versions de ce texte qui sont 10 textes différents. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est un personnage qui lui tenait beaucoup à cœur. Et moi, j'essayais de rentrer dans cette passion. D'ailleurs, effectivement, elle a raison. Félix Arnaudin est un formidable écrivain. Mais je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais allons-y, Christine. Donnons-lui une forme définitive. Et donc, c'était une plaisanterie entre nous deux. Donc, elle dit que je ne l'aime pas. Ce n'est pas vrai, parce que j'aime tout ce qu'il y a dans ce livre. Mais c'était un souvenir particulier, puisqu'on s'est chamaillé sur Félix Arnaudin.
Oui, mais il se retournait même quand il sortait de la pièce où nous étions occupés à travailler et il m'a dit « Ah, je coupe à Arnaudin !» Il était content. C'est un grand Arnaudin.
Mais c'est un très grand.
C'est un immense écrivain, c'est un... Il a dans la tête, il a eu des machines et des machines. Ah, moi, je peux pas ne pas continuer à l'aimer, ça m'embête. Mais je l'aime beaucoup et mon collaborateur l'aime moins, c'est dommage.
Oh, mais ça, c'est le charme de la collaboration. Vous êtes resté quand même combien d'années sans écrire de livres, sans publier de livres, peut-être pas sans écrire, bien sûr. Frédéric.
On poursuit.
Frédéric Maget me rappelait que vous avez écrit dans l'ouvrage consacré à Colette.
Les éditions de Lerme.
Très belle. Les cahiers de Lerme, c'est très beau cahier de Lerme, que vous avez écrit un texte sur Colette, en effet, je m'en souviens très bien. Mais sans écrire de livre, vous êtes resté plusieurs années sans publier d'ouvrage.
Moi, oui, j'étais pas bien. D'abord, je prenais de la... J'étais plus tellement jeune. J'en avais conscience, hélas. Et tout d'un coup, là, ça m'a... Ce livre, et en parlant avec quelqu'un d'autorisé sur la matière, Arnaudin, un jour d'ailleurs, il le découvrira. Vous verrez. Je prétends que c'est un grand cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, parce que c'est un immense créateur landais. Les Landes lui doivent beaucoup. Et les Landes, c'est assez marrant, mais c'est un pays qui a besoin d'être connu.
Comment êtes-vous devenu si attaché aux Landes?
À cause de lui.
Non, pas à cause.
D'Arnaudin, peut-être, oui.
Arnaudin.
Oui, mais comment en êtes-vous venu à avoir une maison dans les Landes, c'est une histoire de famille, ça, quand même, n'est-ce pas ? À avoir une maison dans les Landes, à y aller de façon régulière, et comment est-ce que votre vie s'est partagée entre Paris et les Landes, avec cet amour éperdu pour les Landes, dont témoigne effectivement votre admiration pour Félix Arnaudin. Comment les Landes entrent-elles dans votre vie ? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou est-ce que c'est plus tard ?
Vous avez raison de me le poser la question parce que je ne le sais même pas moi-même. J'adore cette, j'adore certaines atmosphères landaises. J'adore l'air qu'on y respire. J'adore. Il y a eu des catastrophes dans les dernières années, vous savez.
Oui.
Tout a été cassé en mille morceaux. Et moi, je suis allée regarder la lande d'Arnaudin parce qu'elle était toute nue. Elle était dans la région de ce jeune homme, c'est-à-dire du côté de... Voilà. Et c'est formidable. C'est un pays qui a, au-delà de la de tout ce qu'on peut y trouver, des mystères. Parce que d'ailleurs, quand on regarde les livres d'Arnaudin, il y a toute une série qui est réservée à tout ce qui peut être les mystères des Landes. Je peux vous dire que c'est pas commode, parce que Marie Lacoste, ma chère Marie Lacoste,
en tout cas pour répondre quand même à votre question, parce qu'elle ne veut pas le faire, et que moi, j'ai, en parcourant la presse, j'ai vu des choses très très drôles. C'est que bon, il faut savoir que Christine, quand elle va vraiment s'installer dans les Landes au début des années 70, lorsqu'elle revient à Aunès, à l'époque, tout Paris, en tout cas le milieu germano-pratin et littéraire, en parle, parce qu'on dit que Christine de Rivoire quitte Paris pour aller s'exiler à Aunès, et elle le raconte très bien dans le livre. Tous ses amis lui disent à ce moment-là, mais c'est de la folie, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et c'est un choix vraiment volontaire. Mais je dirais qu'avant d'être rentrée dans sa vie, les Landes sont rentrées dans son œuvre. Parce que, et là je fais encore un parallèle de ce point de vue-là avec Colette, à l'âge de 50 ans, disons quasiment, elle écrit Le Petit Matin, qui se passe dans les Landes, et c'est, elle retourne à l'enfance. Et à partir du Petit Matin, les Landes va être le thème constant de son œuvre. Je ne vais pas parler de Boyd, de Crépuscule, Taille Unique, de Belle Alliance, bien sûr, Racontez-moi les Flamboyants. C'est un retour vers le monde de l'enfance qui se concrétise dans son œuvre d'abord. Et c'est juste après ce moment-là qu'elle prend la décision d'aller s'installer dans les Landes et de quitter un milieu littéraire qui lui paraissait extrêmement artificiel pour s'isoler. Il faut dire aussi que Christine, ça c'est une chose qui m'a fasciné, elle n'a connu que des succès littéraires. Depuis son premier livre jusqu'au dernier, elle la vendait énormément. Donc très très vite, elle a pu être indépendante et se consacrer entièrement à la littérature et donc s'installer à Aunès. Mais elle le dit aussi très bien dans le livre, il y a ce paradoxe qui est que Christine de Rivoire est probablement, je dirais avec Mauriac d'une autre façon, un des écrivains le plus souvent associés aux Landes. Et en même temps, elle dit « je n'y suis pas née ». Elle est née à Tarbes parce que son père était officier et que le jeu des garnisons fait qu'elle n'y est pas née. Et les Landes, c'est d'abord l'enfance et l'enfance à Hendaye, qu'elle décrit d'ailleurs, et la découverte de la plage, de la baignade, etc. Mais elle ne retrouvera les Landes que bien plus tard, grâce à Jean-Pierre Grédy. Jean-Pierre Grédy qui s'est installé à Contis et qui lui dit « reviens, viens avec moi ». Et donc elle fait ses premiers séjours, elle décide de reprendre la maison de sa mère à Aunès et d'en faire un lieu symbolique de toute son œuvre et toute sa vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... à mon sens, distinguer Christine d'Aunès et de cette maison. Pour ceux qui ont la chance de la connaître, c'est un lieu extraordinaire.
Oui, mais alors justement, d'abord, vous dites, vous parlez de l'enfance et vous parlez d'Hendaye. En effet, les vacances de l'enfance se passent à Hendaye. Et je suis désolé de vous dire que Hendaye, ce n'est pas les Landes.
C'est loin.
Il ne faut pas tout confondre. Alors, Hendaye, ce n'est pas du tout les Landes. C'est la côte basque. Et en effet, les Landes, qui appartiennent aussi à l'enfance, puisque les grands-parents ont une maison, les Landes, quand même, interviennent au moment que vous avez dit, à certains moments de cette vie. Et il est vrai qu'à Paris, on s'étonne, on dit même que c'est à cause des drogués, c'est des drogués de son quartier qui la font fuir, n'est-ce pas ? Elle a peur qu'on lui arrache son sac. Je ne crois pas que ce soit
C'est à cause de Rennemer, parce que c'est l'accent de Rennemer.
Oui, à cause de Rennemer. Mais je voudrais poser une question justement sur l'enfance, parce qu'il y a dans ce livre à la fois un chapitre sur l'univers de l'enfance, je ne sais pas quel est le titre exact. En tout cas, l'enfance, c'est écrit avec une majuscule. L'enfance majuscule. Donc, il y a une célébration, en effet, de l'été de l'enfance, des vacances de l'enfance, de la mer et des plages de l'enfance. Et puis, il y a un autre moment où, plus loin dans le livre, où vous écrivez, Christine, l'enfance, quelle barbe, c'est ennuyeux, l'enfance. Alors, c'est ennuyeux ou c'est merveilleux, l'enfance ?
Je crois que les deux.
Les deux.
Qu'est-ce que vous croyez ?
Je ne me souviens plus. Mais votre enfance, vous dites, pourquoi est-ce qu'elle a été ennuyeuse à certains égards ?
Elle n'a pas été vraiment ennuyeuse. Mais parce que il y avait quand même des gens qui étaient contents de me voir et moi de les voir aussi. Mais c'est la solitude qui m'a plu le plus après tout ça, j'avais toutes ces portes ouvertes et puis je les ai refermées. Je me suis dit que j'étais mieux dans mon petit antre personnel que là.
Mais quelle porte avez-vous refermée ?
J'ai refermé au détent de... Enfin, des portes. Pas des temps, mais... J'en avais marre. Une fois que j'ai été bien installée là-bas, d'abord, toutes les tristesses qui vous arrivent, mes chevaux, mais tout est mort. C'est triste.
Et ce qu'il y a dans l'enfance aussi, elle le dit, de toute façon, c'est décrit dans tous ses livres et dans Le Petit Matin en particulier, c'est l'atmosphère assez étouffante des familles.
Des familles.
Et l'absence de communication, c'est ce qu'elle souligne souvent dans le chapitre sur son père en particulier, l'absence de communication entre les parents et les enfants. C'est-à-dire que les adultes avaient leur vie et les enfants une vie complètement séparée. Et elle trouvait que finalement, les adultes occupaient une place qui était disproportionnée. C'est ça, les portes ouvertes. C'est qu'en fait, on n'avait pas de solitude. On était embarqué dans la vie, tout le temps embêté par les adultes, sans avoir de vrais échanges et de vraies communications avec eux. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'été de l'enfance, c'est merveilleux aussi parce qu'il y a la découverte des plaisirs, y compris des plaisirs corporels dans l'eau, dans la mer, etc. Elle dit ce plaisir physique de vivre. Et en même temps, il y a cette présence des adultes qui est omniprésente et qui est souvent lourde, d'autant qu'elle est associée souvent dans l'esprit de Christine à la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite les années d'occupation, qui ont encore assombri d'une certaine façon toute cette atmosphère familiale. Donc je pense que l'ambivalence, elle est là, en fait. C'est merveilleux, mais en même temps, tel qu'elle l'a vécu, l'absence de communication entre les générations était lourde à porter, notamment dans le milieu dans lequel Christine a grandi.
Une des portes qui a été fermée, c'est quand même aussi la porte justement du milieu bordelais. C'est-à-dire qu'il y a un passage très très drôle où les enfants, en tout cas deux sœurs, vont. C'est au moment de Noël ou du premier de l'an, c'est-à-dire au moment des vœux. Alors, ils ont un manteau vert avec une grosse ceinture, etc. Et on va chez les Balandes. À Bordeaux, n'est-ce pas, apporter ses vœux à Uncle. Je ne sais plus quoi, Uncle comment, et Auntie
Jeanne.
Auntie Jeanne. Et Uncle En coulant d'André.
Et alors, c'est vraiment, c'est une corvée épouvantable. Et quand vous sortez de cette belle maison que je connais d'ailleurs, Place Péberlan, vous dites à votre mère, bon, c'est fini maintenant, c'est fini, moi je ne veux plus de ça. Et...
Ah non, mais c'est ma mère qui a été gentille. Dans ce cas-là, j'ai dit, ces manteaux sont monstrueux. Il faut, c'était surtout l'horreur de cette... Parce que ma mère était adorable, mais tout d'un coup, ça l'embêtait, alors elle avait des faiblesses. Et on a eu un hiver, ma sœur et moi, le même manteau.
C'est ça.
Ah, je ne sais pas en quelle année c'était, vous ne le savez pas non plus. Et voilà, c'était comme ça. Alors, j'ai dit à maman, vous savez, je ne le mettrai jamais. Je vous préviens, jamais, 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 jamais. Est-ce que je peux le donner? Alors, elle m'a regardé. On ne donne pas beaucoup, vous savez, dans le sud-ouest, ils sont assez... ils ne sont pas très donnants. Et pourtant, ils avaient quand même envie de... Et ma mère, je crois qu'elle a ri. Parce qu'elle était très drôle, ma mère. Elle parlait aux oiseaux. Quel est ce petit... Il y avait un petit merle. Que fait ce merle dans mon herbe? Ça l'agaçait. Elle était drôle. Donc, la drôlerie de ma mère, ça, c'est une des choses que j'ai... quand même récupérer sur la vie de mon enfant. Mais je n'ai pas été malheureuse enfant. J'ai été horriblement malheureuse après. Après.
Après, c'est-à-dire quand... Est-ce que Frédéric Maget disait tout à l'heure que la période difficile, ça a été l'avant-guerre et l'occupation. Et alors, on trouve dans Flying Fox une scène qu'on connaît déjà, puisqu'elle est dans le petit matin, c'est-à-dire l'arrivée des Allemands dans les Landes, chez les grands-parents. Et est-ce que c'est cette période qui a été très dure, c'est-à-dire l'occupation et la période qui précède l'occupation?
Horrible.
Horrible.
Horrible. Mon père a disparu parce qu'il ne voulait pas voir ça. Déjà, le chef de famille qui se taille, ça fait mal quand même. Donc mon père, enfin en tout cas lui, alors ça fait, il y avait des collabos dans la famille aussi. Et c'était pas très agréable non plus. Alors voilà.
Est-ce que les familles étaient divisées vraiment entre collabos et résistants ou est-ce que les familles étaient divisées?
Très.
Très divisées.
Oui, mal foutues. C'était pas des indulgents hein, dans les familles bourgeoises. C'était pas des gens qui aidaient. Une fille de 17 ans, moi j'étais bête en plus, mais j'adorais tout ce qui pouvait correspondre à ce que j'avais connu avant. J'aimais mon grand-père, j'aimais ma grand-mère, j'aimais le passé, j'aimais le passé, moi j'aime le passé. Et dans les Landes, pourquoi je les aime tellement? Pourquoi j'aime tellement Arnaudin? C'est parce que... Mais il faut pas rire. Il est très, très important. Lui, il rit parce que lui, de toute façon, c'est pas sympathique.
Et ça, cette phrase, j'aimais le passé, c'est un passage qui m'a beaucoup intéressé dans le livre. Je crois que vous avez une discussion avec Jacqueline Piatier du Monde, ou quelqu'un comme ça. Et C'est peut-être pas Jacqueline Piatier, je ne sais plus ce qu'il sait. Mais vous dites, eh bien, moi, j'aime le passé. Moi, je m'intéresse au passé. Moi, je suis tourné vers le passé. Moi, mes affections, mes amours sont dans le passé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de morts à qui je pense. Etc. Donc, elle est totalement... La personne à qui vous parlez, est-ce que c'est Jacqueline Piatier, vous vous souvenez?
Non, je crois que c'est Madame Faure.
C'est la femme d'Edgar Faure, c'est Lucifer, voilà. C'est Lucifer. Alors, elle est absolument sidérée, parce que naturellement, il faut être tourné vers l'avenir. Et vous, vous dites ça, j'aime le passé. Et vous le redites aujourd'hui.
Oui, parce que je trouve qu'il y a des couleurs extraordinaires. La nature est belle comme tout. Il faut le regarder, le passé, avec les yeux de maintenant, si vous voulez. Moi, je trouve que c'était... Quand même, il y avait des beaux moments dans le passé que je retrouve et que... Dans mes livres, il y a plein de notations là-dessus. Je laisse pas passer...
Mais c'est pas le passé passé.
Non.
Est-ce qu'on peut revenir à la période de la guerre? Car c'est aujourd'hui le 70e anniversaire de l'ouverture des camps. Et alors, il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à ça, aux camps d'extermination. Et notamment, il y a une histoire très troublante. Est-ce que vous vous rappelez ça sur le fils de Marie Marquet, la comédienne?
Ah, ça, Marie Marquet était... D'abord, pour commencer, c'était pas une amie à moi, du tout. Elle me faisait peur, elle mesurait 6 mètres de haut. Oui. J'ai jamais vu quelqu'un de plus grand. Elle avait des pieds comme ça. Elle était une immense actrice, c'était énorme. Mais moi, quand je la voyais, j'avais, vous savez, je mesure 1m51. Donc, entre nous, il y avait quand même une petite différence. Mais je ne l'aimais pas. Et je me suis dit quand même, son fils, j'avais appris, donc son fils était parti pour un camp de concentration. Et c'était elle qui l'y avait poussé, c'est elle qui avait trouvé les appuis qui pouvaient faciliter. Elle a été l'organisatrice. C'est épouvantable. Moi, alors, je me suis dit, je vais quand même être gentille. Alors, donc, elle mesurait 6 mètres de haut. Je m'approche d'elle et je lui dis, je voudrais vous parler un petit peu de François. Elle a eu un sursaut de fureur. Je ne peux pas vous dire, il n'y a pas eu uniquement du chagrin. Elle m'a regardée avec haine. Moi, j'avais peur presque, mais j'avais pas peur, mais j'avais peur quand même parce que Après ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je revoie, que je sache où il est. Et puis il est mort sans que j'aie jamais su la fin de l'histoire. Triste histoire.
Vous pensez vraiment que c'est elle qui avait parce que elle, au fond elle voulait pas que son fils s'éloigne d'elle, n'est-ce pas? Elle voulait pas que son fils la quitte. Et vous pensez que c'est elle qui d'une certaine manière l'a dénoncé ou qu'elle a été imprudente?
Elle aimait les Allemands. Elle était avec eux des grands conciliabules. Moi j'en veux à Marie Marquet.
Il faut dire quand même que c'était probablement
volontaire.
Il ne faut
pas lui répéter, elle est morte, heureusement.
Alors, comme vous le disiez très bien, elle ne voulait pas que son fils aille loin d'elle. Or, il avait prévu de s'engager, de partir pour Londres. Et donc, elle a dû en parler à un de ses amants allemands en disant, écoutez, voilà, mon fils veut partir pour Londres pour faire de la résistance, moi je ne veux pas qu'il parte. Et elle a si bien réussi qu'il s'est fait arrêter et qu'il a été déporté. Voilà. Et donc je pense que le choc
le
était...
Le boulot, c'est elle qui l'a fait, c'était moche. C'était moche. Alors, moi, ça ne me regardait pas. Je ne sais pas pourquoi je me suis tout d'un coup approchée de cette géante. En plus, elle me terrorisait.
Et parce que vous êtes approchée, parce que vous dites, je suis timide. Premièrement, je suis timide. Et deuxièmement, je suis très timide. Mais... pas tellement. C'est-à-dire que si on lit tous ces souvenirs, et en particulier ceux qui concernent le début de votre carrière de journaliste, hein, quand vous êtes au Monde, quand vous êtes dans différents organes de presse, que vous allez interviewer les gens, vous n'êtes pas tellement timide. Vous abordez ces gens-là avec, au contraire, une certaine audace, il me semble.
Tiens.
Mais est-ce que Faulkner vous a intimidé ?
Oh, pas du tout.
Eh ben voilà, pas du tout.
Oh, mais pas Faulkner, n'était pas quelqu'un d'aimable. Il avait donc quand quelqu'un n'est pas vraiment aimable, on n'a pas de raison de lui rendre l'appareil.
Au contraire, on lui rend l'appareil.
Oui. D'ailleurs, quand je l'ai revu quelques années après, quand il a eu un grand prix, pas celui de Modiano, mais un grand prix. Je ne sais pas ce qu'il a eu.
Il n'a pas eu le Nobel. Si. Il a eu le Nobel, si. Le Nobel.
Il a eu le Nobel.
Oui.
Vous en êtes sûr?
Oui, à peu près. Oui.
Alors, moi, je l'aimais bien dans un premier temps parce que j'aime bien les gens, moi. Et puis, je parlais anglais facilement. Alors, je parlais avec lui. Il était assez content. Et je crois qu'après ça, nous sommes allés boire un coup.
Mais je pense que c'était le seul moyen de,
oui,
d'obtenir l'interview. C'est-à-dire, pour aller dans votre sens, elle avait même du culot.
Oui.
Parce qu'en apprenant que Faulkner était arrivé à Paris, la presse ne le savait pas encore, elle a appris qu'il était descendu au Lutetia, je crois. Elle a pris le téléphone, elle a appelé la réception dans son plus parfait anglais en disant « Je pourrais avoir la chambre de William Faulkner. Mmh. » Et on lui a passé. Je pourrais avoir une interview et lui dire, à condition que vous m'emmeniez boire un coup, s'il fait, elle s'est rendue avec lui, elle l'a emmené au Flore, ils ont passé la soirée à boire du whisky qu'elle n'aime pas.
Oui, mais enfin, elle en a bu, et après, elle était un peu comme ça.
Ah, il est parti avec moi ce soir-là.
Au Flore, mais il avait retrouvé quelqu'un d'autre, Anger. Comment il s'appelle, vous vous souvenez? Un type assez fascinant, ils se sont retrouvés tous les trois à effectivement boire et il a évoqué à Christine la terre rouge de son pays, etc.
Ah oui, oh, c'est un chabot.
Est-ce qu'on peut dire un mot du séjour en Amérique, puisque vous venez de dire je parlais l'anglais, ça. Oui, et vous avez fait des études dans une université américaine.
Oui.
Et alors, vous en gardez un bon souvenir. On ne sait pas trop en lisant le livre. Il y a des étudiantes qui vous horripilent, et puis en même temps, il y a des professeurs qui vous agacent, et puis quand même, vous apprenez les rudiments du journalisme.
Eh bien.
Oui.
C'est pas bien.
Mais si, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous diriez que ça a été positif, ce séjour en Amérique, ou que vous en gardez un mauvais souvenir?
Je garde un bon souvenir de ma chère amie, morte depuis un moment. Elle était marrante. Elle avait une force, une vitalité extraordinaire. Elle avait... elle me communiquait ça. Nous avons fait tout l'ouest des États-Unis. C'est elle qui conduisait, heureusement. Et parce que moi, je me vois mal. Tout l'ouest, c'est beaucoup, là.
Il y a de beaux paysages.
Mais des beaux paysages.
Oui. Vous aimez les paysages.
Vous aimez ça, vous?
Ah oui, beaucoup. Mais, beaucoup. Je ne connais pas ceux des États-Unis, mais les paysages hollandais, je les connais bien. Ça s'appelle Flying Fox et autres portraits. Alors, il y a beaucoup de portraits, en effet, d'amis, comme cette amie américaine.
Turtle.
Et puis, il y a des portraits d'écrivains français que l'on connaît bien, qu'on a rencontré, et à qui vous avez été, avec qui vous avez eu des liens d'amitié très forts. Bon, je pense à quelqu'un qui tient une place importante, qui est Félicien Marceau. Comment l'avez-vous rencontré, Félicien Marceau?
C'est un grand ami. Il est mort, là, vous savez, il est mort il y a un mois ou deux mois. Il est mort.
Vous l'avez rencontré comment?
Alors, j'ai rencontré parce que Michel Déon, qui est un chercheur de relations, vous voyez ce que je veux dire?
Un homme sociable.
Oui, il se débrouille toujours pour être là où il y a du monde et il se débrouille. Hein. Il veut être, je crois, un secret. Il veut rentrer à l'Académie française.
Oui, ça y est, il est rentré. C'est fait.
C'est fait.
Oui, c'est fait.
Je suis tellement bête. Je vous ai cru.
Oui. Bon, alors, c'est Michel Déon qui vous a mis en relation avec...
Alors, Michel Déon était très gentil avec moi. Vous savez, quand les gens sont gentils, moi, j'ai un côté à la fois bête et curieux. J'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et il était beau à ce moment-là. Il avait des bagnoles qui se cassaient tout le temps. 4 fois dans le voyage pour aller de jusqu'en...
Dans le Midi.
En Italie.
Pire qu'en Italie.
En Sicile. Ah, vous n'êtes pas allé jusqu'en Sicile parce qu'il s'est arrêté à Rome.
Si, j'y suis allée.
Oui, mais vous avez fini toute seule parce que...
À moi.
Ou de quatre.
Vous voyez, il est au courant de ce que je fais.
Pour la rencontre, en tout cas, c'est donc chez Michel Déon. Et c'est assez joli parce que Félicien Marceau est en train de discuter avec François Sagan. Et tous les deux parlent de Balzac. Et évidemment, Christine le décrit, François Sagan parlait tout bas, donc Félicien Marceau parlait tout aussi bas, donc on n'osait pas les déranger, mais elle écoutait la conversation. Il se trouve que Balzac est aussi un de ses auteurs favoris, qu'elle était fascinée par la façon dont Marceau parlait de Balzac. Vous savez tous que c'est un des plus grands spécialistes de Balzac, enfin en tout cas que ce Balzac et son monde fait référence,
le monde de Balzac fait référence.
Et du coup, c'est comme ça qu'elle a découvert. Elle était fascinée par Balzac, à travers Marceau, et une fois Sagan ayant lâché Félicien Marceau, elle s'est approchée, et là, je pense qu'ils se sont retrouvés, je crois, autour du personnage de Madame de Marneffe, c'est ça, non?
Oui.
De qui?
Madame de Marneffe, un des personnages de Balzac, pour
moi. Oui, magnifique.
Marceau. Il me semble que c'est plutôt Madame de Marceau.
Marceau.
Ah, le lys dans la vallée. Que les Balzaciens n'aiment pas du tout. J'ai un ami qui est un grand Balzacien. Je lui avais demandé ce qu'il pensait du travail de Félicien Marceau. Il dit c'est absolument remarquable. Mais les Balzaciens détestent le Lys dans la vallée parce que c'est un ouvrage à part dans l'œuvre de Balzac. Bon, c'est autre chose. Alors, donc il y a un très beau portrait, très touchant portrait de l'ami. Marceau, et il y a un portrait assez drôle, mais vous venez de nous en donner une idée, de Michel Déon. Il y a une place importante, alors là, je ne sais pas s'il faut poser la question à Christine de Rivoire ou à Frédéric Maget, il y a une place importante accordée à Colette l'écrivain, et puis à Colette de Jouvenel, la fille. Qui parle là alors? Vous parlez de Colette ou vous parlez de Colette de Jouvenel? De laquelle voulez-vous parler?
Mais moi, je veux bien parler de la fille.
Parler de la fille.
Mais lui, il connaît mieux la mère.
Voilà. Ah ben. Alors, commençons par la fille. Donc,
Alors, la fille, elle était adorable. Elle était. Moi, j'aimais beaucoup Colette de Jouvenel. Elle n'avait pas la beauté singulière de sa mère. Elle tirait un petit peu trop sur la boisson. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que de toute façon, elle n'était jamais ivre morte. Elle n'a jamais. Pourquoi vous me regardez comme ça?
Je dis rien, moi.
Elle était très. C'était une personne très donnante, Colette de Jouvenel. Mais vous savez, les Jouvenel sont pas des gens marrants du tout. Ils le sont pas du tout. La famille n'a plus aucun charme de. Colette avait quelque chose d'à part. Elle n'était pas d'ailleurs exclusivement la bonne dame du palais royal. C'était au départ une danseuse, une mime. Elle a fait plein de fantaisies, mais quand on revenait à l'écriture, c'était céleste. C'était un nuage. Elle avait un talent fou. Il y a un livre qui s'appelle. Comment s'appelle-t-il ?
Votre préféré, je crois, c'est L'envers du music hall.
L'envers du music hall. Vous les connaissez mieux que moi maintenant. Je vais vous donner toute ma bibliothèque.
Frédéric Mazé, je voudrais qu'on revienne tout à l'heure à Colette de Jouvenel, mais puisque vous tournez vers lui et qu'en effet il connaît très bien Colette et qu'il est président des Amis de Colette, est-ce que vous voyez un rapport entre Christine de Rivoire, du point de vue littéraire, finalement, de Christine de Rivoire et Colette? Dès qu'il y a un écrivain femme et qui a un succès important, on rapproche toujours, on dit c'est la Colette landaise, c'est la Colette girondine. Il y a un vrai rapport entre.
Alors déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, ça peut aujourd'hui, ce serait assez impensif, mais lorsqu'il a été fait, et il a été fait dès le premier roman de Christine, dès L'Alouette au miroir, c'est une chose qui m'a tout de suite frappé, c'est qu'il y a à chaque livre, il y a forcément un ou deux critiques qui font le parallèle à une époque où on connaît encore très très bien l'œuvre de Colette et donc où ces parallèles sont sans doute beaucoup plus fondés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le deuxième élément de réponse, c'est que Christine, qui est très modeste sur ce sujet-là, mais j'ai pu le voir au cours de nos conversations, est une vraie spécialiste de Colette. Elle connaît l'œuvre de Colette parfaitement. Aussi bien la vie que l'œuvre, elle en a une compréhension extrêmement, extrêmement fine et extrêmement profonde. Et j'ai été souvent frappé, en menant les entretiens avec elle, de voir à quel point ses réactions face à certaines questions, à certaines problématiques, me rappelaient quand même étrangement Colette, à la fois dans sa façon de se défausser quand elle ne veut pas répondre à tes questions, et parfois en effectivement refusant de se confronter à des ambiguïtés ou à tout ce qui pourrait être une interprétation. Par exemple, je vais vous répondre négativement, dans le livre, on est étonné de voir que Christine ne parle pas de son œuvre. Effectivement, finalement, elle ne parle pas de ses livres ou très peu. De ses livres à elle, elle en parle assez peu. Mais Colette, de la même façon, aurait sans doute pas du tout accepté qu'on lui demande d'interpréter, elle, ses ouvrages. Ça, c'est cette méfiance à l'égard des théories et à l'égard, cette indépendance à l'égard de l'histoire littéraire, ça, c'est déjà un premier point qui les réunit. Parce que c'est vrai qu'on ne peut être que frappé d'une chose, c'est que Christine est restée extrêmement étrangère ou très indépendantes aux écoles littéraires qui pourtant faisaient florès après la Seconde Guerre mondiale, qu'il s'agisse de l'existentialisme ou qu'il s'agisse du nouveau roman ensuite, bien qu'elle les ait côtoyées ces auteurs, elle le raconte. Alors pour entrer plus précisément, je pense que parmi les points qui concentrent les parallèles entre les deux, il y a d'abord la relation au passé et à l'enfance. Ce que vous a dit tout à l'heure Christine sur son goût pour le passé, vous retrouverez dans l'œuvre de Colette exactement les mêmes propos. L'ambivalence de l'enfance, vous trouverez exactement la même chose. Colette dit, s'il fallait raconter son enfance, il faudrait le faire quand on est encore proche de ce moment-là. Et sans doute, ce récit ne serait que drame et déception. Mais on ne le fait qu'en son âge adulte. Et donc, il faut se méfier de ses souvenirs d'enfance. Elle dit, je me méfie même des miens. L'autre relation, c'est évidemment la relation presque fusionnelle avec la nature. Il suffit de comparer les descriptions, par exemple, de l'héroïne du petit matin sur son cheval à travers les pins pour retrouver exactement la même sensation de communion avec la nature qu'on retrouverait chez Colette. Et de la même façon, d'ailleurs, cette animalité, ce contact presque instinctif avec les bêtes, parce que Christine avait avec ses animaux, chiens, chats et chevaux, une relation qui n'est pas une relation bétifiante, pour faire un néologisme, mais c'est une relation humaine et extrêmement profonde. Là où je trouve qu'elle se retrouve aussi véritablement, c'est sur la relation à l'écriture. Ayant travaillé à côté de Christine, j'ai pu voir, et on verra quelques pages, je pense, du manuscrit demain de l'Ardua de Flying Fox, vous verrez le travail extraordinaire d'écriture que suppose chez Christine des pages qui, quand on les lit, peuvent sembler effectivement très, très orales, très, presque instinctives. C'est un très, très dur labeur. On détruit beaucoup, on réécrit énormément, et ça, c'est quelque chose qu'elle partage effectivement avec Colette. Écrire, c'est difficile, c'est un métier difficile et qui demande beaucoup, beaucoup de renoncement à la recherche du mot meilleur que meilleur. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, un parallèle de l'une à l'autre, c'est-à-dire cette grande humilité face à la littérature et face à l'écriture. On n'est pas grand-chose par rapport dans ce travail-là de littérature qui nous dépasse un peu, mais on fait de son mieux comme un artisan. Et effectivement, ça, elles le partagent toutes les deux. Après, il y aurait évidemment beaucoup d'autres parallèles à faire, mais je pense qu'en tout cas, sur cette relation au passé à l'enfant, cette relation à la nature et cette relation à l'écriture, il y a effectivement des parallèles qui sont certains. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'un critique aussi avisé que François Nourricier, et qui n'aimait pas Colette, pouvait dire que, effectivement, dans l'article qu'il consacre au Petit Matin, il dit que c'est un peu bêta de rapprocher souvent des écrivains à des prédécesseurs, parce que c'est franchement les limiter, c'est un peu facile. Mais dans le cas de Christine, elle ne démériterait pas du tout à être rapprochée de Colette. Et justement, je ne pense pas dans une relation de maître à élève, qui est un peu fausse, mais dans une relation, il parle d'une région de la littérature. Et il me semble que Christine et Colette appartiennent à la même région de la littérature, qui est une région qui met la vie au centre de l'œuvre.
Vous dites que Christine ne parle pas de ses livres. C'est vrai, elle en parle peu, elle cite de temps en temps un titre, mais vous avez évoqué Le Petit Matin, et vous avez fait un des éléments de votre rapprochement avec Colette. Et, alors, il est question du Petit Matin dans le livre, mais il est question de l'adaptation cinématographique du Petit Matin par Jean-Gabriel Albicocco. Et comme vous avez quelquefois la dent très dure, un peu dur en tout cas. Et vous n'avez pas aimé le film Le Petit Matin. Mais non. Pourquoi?
Parce que je ne l'ai pas aimé. Parce qu'il était... Vous savez, Albicocco, c'était le pauvre, il est mort ruiné. Tristement, je ne veux pas taper sur lui trop. Mais quand même. C'est tout ça, c'était tristesse pour moi. Donc je ne veux pas en parler.
Est-ce que pour ne pas parler de choses tristes, vous pouvez raconter un épisode extrêmement drôle avec Colette de Jouvenel, justement, qui est l'histoire des langoustines. Alors racontez-nous ça.
Ça, c'est une histoire émouvante aussi. Parce que Colette de Jouvenel, c'était quand même un personnage très joyeux. Et elle aimait bien la vie, surtout quand son beau-père est mort. Ça a été merveilleux pour elle. Le meilleur ami était un monstre. Vous ne le saviez pas, ça ?
Non.
Le dernier mari de Paulette, Maurice Goudkett. Hein ?
Vous ne le saviez pas ?
Si, 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 moi, oui. L'histoire des langoustines.
Oui.
Racontez l'histoire des langoustines.
Alors, les langoustines, elle est donc venue à la maison, comme ça, très, très gentiment, parce qu'elle avait quelque chose de charmant. Elle parlait un anglais sensationnel, un italien merveilleux, elle aimait les langues, elle aimait... Mais elle n'était pas du tout... Enfin bref, les langoustines, revenons-en aux langoustines. Et alors moi, je dis à Félicien, je dis à Alexandre, qui était un ami, lui dit, tu vas te débrouiller pour qu'on lui fasse une belle soirée avec... Tu vas acheter des langoustines. Il y est allé. Le petit Alexandre Calda était très, très jeune à ce moment-là. Voilà. Tristement.
Alors, je finis l'histoire. Oui, donc, oui. Les langoustines. Donc, repas de fête, on met les petits plats dans les grands, on sort l'argenterie, on reçoit la fille de Colette, donc il faut faire les choses en grand. Alexandre Calda se démène en cuisine avec ses langoustiques et fait une préparation absolument mirobolante où on voit carrément une pièce montée de langoustines, c'est merveilleux, magnifique. Christine est aux anges, on présente les langoustines, Colette de Jouvenel est épatée, elle attend la réaction et là sur son visage elle voit pointer un nombre un peu étrange, quelque chose ne va pas. J'adore les langoustines, vous n'aimez pas les langoustines, j'adore les langoustines mais je préfère quand elles sont cuites. Et Christine de se retourner vers Alexandre Calda, tu es un imbécile, tu sais bien que ça se fait cuire. Lui, non, il ne le savait vraisemblablement pas. Et il était persuadé d'avoir vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que c'est ça aussi qui a scellé l'amitié avec Colette de Jouvenel.
Et alors, c'était mon ami, mais la famille Jouvenel n'est pas sympathique. Je les aime pas.
Est-ce qu'on dit un mot d'Alexandre Calda, qui a tenu une place importante dans votre vie,
oui,
et à qui vous avez consacré un livre,
oui,
et avec qui vous avez écrit aussi un livre. Vous avez consacré un livre à Alexandre Calda après sa mort, et vous avez écrit un livre avec lui, Le Seigneur des Chevaux, avant sa mort. Il a tenu une place importante dans votre vie, mais est-ce que vous vous rappelez, c'est comme Félicien Marceau, comment entre-t-il dans votre vie, Alexandre Calda ? Vous vous souvenez de ça ?
Au charme. Je le trouvais délicieux. Vous savez que ce petit bonhomme était un érudit, il savait des torrents de choses. Et moi, j'aimais bien ça, je le trouvais.
Je pense que ils se rencontrent, en recoupant les informations, je pense que c'est à peu près ça. Ils se rencontrent probablement en 66, au moment où le prix des quatre jurys, Christine fait partie de ce jury, puisqu'elle l'avait reçu et les récipiendaires font partie du jury, Albertine Sarrazin.
Ah oui.
Alexandre est envoyé par la presse pour couvrir l'événement. Et il propose à Christine, il sympathise au moment de la remise du prix, et il propose à Christine de partir faire une découverte du désert. Et donc, ils partent du désert dans le désert, et il lui parle de Dostoïevski pendant tout le voyage dans le désert. Donc, oui, c'est assez saisissant, mais je pense que ça ressemblait assez à Alexandre Calda. Et Christine a un vrai coup de foudre pour ce jeune garçon qui est dans une situation familiale atroce, très difficile, et avec la spontanéité et le culot donc qu'il faut lui reconnaître, arrivé à Paris, elle lui dit « Écoutez, si ça passe si mal chez vos parents, venez vivre chez moi. » Et il entre comme ça dans la vie de Christine à ce moment-là, donc en 66. C'est la même année, d'ailleurs, elle rencontre Bernard Pivot la même année en 66.
Bernard Pivot ne va pas habiter chez elle.
Non. Si j'ai bien compris, il aurait peut-être voulu dans la famille, mais pas de ce côté-là.
Et ça, alors, cette amitié, c'est plus qu'une amitié. Ce lien étrange avec Calda, ça choque autour de vous, que vous viviez avec Alexandre.
Ça m'était équilatéral. je m'en foutais de l'opinion de ma famille. Ça n'a pas compté beaucoup pour moi. Vous savez, j'étais méchant. Hein. C'était pas une famille gentille. Les bourgeois de Donnes-la-Haye, c'était pas les meilleurs.
Et de Bordeaux.
C'était pas.
Les Bordelais. C'est
et vrai. Les Bordelais, oui. Vous voyez.
Je ris parce que les premières fois où nous nous sommes rencontrés, maintenant nous sommes vraiment amis maintenant, n'est-ce pas? Oui. Mais la première fois, ça s'était pas très bien passé parce que qu'est-ce que c'est que ce bourgeois bordelais, etc. Vous n'aimiez pas du tout les bourgeois bordelais, vous m'aviez mis dans le lot des bourgeois bordelais. Ah maintenant, bon. Vous avez corrigé votre façon de voir.
Mentir.
Ouais.
J'ai dirigé, je mentir dans votre direction. Et je vous remercie beaucoup d'être patient. Mais je veux quand même dire que les Jouvenel, c'est pas de la tarte. C'est pas du tout les gens qu'on aimerait connaître. Mais pas du tout. Hein.
Vous allez me brouiller avec la moitié de la famille. Ah, en tout cas, bon, je pense que il faut expliquer pourquoi ça choquait, parce que il y a plusieurs choses. D'abord, il y avait effectivement, il était très jeune. Je sais pas quel âge il avait, mais peut-être une vingtaine d'années, une petite vingtaine d'années. Il avait défrayé la chronique parce qu'il avait publié son premier roman à l'âge de 16 ans. Le deuxième avait failli être interdit, censuré. C'était
le désir
extrêmement, extrêmement libre. Donc c'était, disons, un jeune auteur prometteur à l'époque, mais qui faisait déjà scandale et qui était réputé pour sa revendication de son homosexualité. Donc tout ça choquait énormément... Oui, choqué ou gêné, une partie de l'intelligentsia parisienne qui dit « Mais attention, tu ne le connais pas, il est dangereux, etc. » Et effectivement, Christine, comme je dis, n'avait absolument rien à faire et au contraire, même, s'affichait très volontiers avec lui. Et ce n'est pas qu'une passade ou une tocade ou une volonté un peu anticonformiste, parce qu'on pourrait voir ça comme ça aussi. C'est quelque chose de profond parce que c'est la relation a duré... toute la vie, en tout cas toute la vie d'Alexandre, et s'est poursuivi bien après littérairement pour Christine. Tout à l'heure, vous parliez de l'arrêt de l'écriture. Moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé. Christine a arrêté d'écrire des romans en 1995 avec Racontez-moi les flamboyants. Elle s'arrête non pas parce qu'on ne veut plus d'elle, parce qu'elle n'a pas de succès, parce que la source est tarie, etc. Elle est tout à fait. Mais c'est la mort d'Alexandre Calvin qui brise chez elle quelque chose de profond et elle décide de ne plus jamais écrire. Et donc elle reprendra la plume qu'en 2007 pour pouvoir donner ce portrait d'Alexandre. Que finalement clôt aujourd'hui Flying Fox, puisqu'elle révèle dans le chapitre ce qu'elle n'avait pas pu dire en 2007, c'est que, selon elle, il s'est suicidé.
Oui. Oui, ce qu'elle révèle ça dans Flying Fox, ça n'était pas dit dans l'ouvrage qui s'appelle
Archaka.
Et en effet, oui, il y a un certain nombre d'indices qui laissent à penser que. Qu'il s'est suicidé, puis un petit jeune homme tamoul qui n'est pas très clair dans l'histoire. Et est-ce qu'on peut on va pas parler du père parce que ça va vous émouvoir trop, non? Vous voulez en parler un peu de votre père parce que quand même vous l'avez mis sur la couverture.
Oui, mais j'en parle aussi. Je dis que j'ai jamais fait de choses trop intimes avec mes parents. Et je les adorais. Ma mère était un ange, mon père était un type épatant. Mais ils sont morts trop jeunes pour moi. Alors moi, j'ai continué à rouler ma bosse de vieille bizarre. <C'est... rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Frédéric Magé dit que vous êtes arrêté. Après quel roman, racontez-moi les fois.
95, oui.
95, racontez-moi. Vous arrêtez d'un seul coup
oui.
D'écrire des romans. Et moi, ça me fait penser à quelqu'un qui apparaît dans le livre, à la fin du livre, quelqu'un que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et c'est une très célèbre actrice, très belle actrice, une des plus belles femmes du monde, qui, d'un seul coup, s'arrête de faire du cinéma, pareillement, et qui s'y tient. Au fond, vous ressemblez à Brigitte Bardot.
Ah, j'aimerais beaucoup. Oh, mais... Ça, elle, vous savez, nous avons une correspondance.
Oui, alors parlez, disons un mot. Hein.
Oui.
Vous avez une correspondance.
Elle a sauvé un chien que d'horrible neveu ne voulait pas. Vous savez, les gens, quand les animaux les gênent, c'est pire qu'avec un être humain. Et là, ça, tout d'un coup, c'était... Bon, je ne vais pas m'en parler, hein. Ça m'avait dégoûté. Et Brigitte Bardot, en 48 heures, elle a ramené cette chienne dans son... C'est un refuge qu'elle avait... Elle a une sorte de maison.
À la Madrague, vous voulez dire ?
À la Madrague, oui.
Chez elle, d'accord.
Elle est personnelle, oui, elle ne fait rien comme tout le monde. Elle est généreuse. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et beaucoup d'amitié, mais je ne la vois jamais. Jamais. Je ne voyais jamais, je ne sais plus qui. Qui est-ce que je ne voyais jamais ?
Alors ça, c'est une question piège.
Quelqu'un que j'aimerais beaucoup et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ça existe aussi. Ça existe. Les gens drôles. Les gens généreux. Les gens qui tout d'un coup disparaissent pendant des années, puis tout d'un coup vous les retrouvez. C'est génial, ça.
Mais vous dites ça à propos justement de quelqu'un dont nous avons parlé, qui est Félicien Marceau. Vous dites, je le voyais, puis je ne le voyais plus, puis il était très occupé, puis il avait ses livres à écrire, son œuvre à faire, et puis l'Académie française. Et tout d'un coup, d'ailleurs, au moment où vous partez pour les Landes, c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire parce que les amis ne sont pas là, ils ne sont jamais là en permanence, malheureusement. L'amitié, c'est un peu à éclipse. Merci beaucoup, Christine de Rivoire. Merci à vous.